Alors, merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui pour l'ouverture du séminaire Flaubert de cette année, qui sera consacré à la question de l'héritage et de la postérité de Flaubert pour la deuxième année. Flaubert traduit, Flaubert adapté au cinéma, Flaubert mis en musique ou Flaubert édité. Nous nous intéresserons aux nombreux modes de médiation de l'œuvre de Flaubert auprès du public contemporain. Florence Pellegrini, qui a co-organisé ce séminaire avec moi, n'a pas pu être présente aujourd'hui et vous prie de l'en excuser. Elle reviendra pour la prochaine séance. Alors le programme pour cette année est le suivant, je le fais passer. Le 16 novembre, Damien Dauge viendra parler de Flaubert et la musique. Ensuite, nous aurons la séance suivante qui aura lieu le 1er février. François Van Ostuys parlera des adaptations cinématographiques de Flaubert et Florence Pellegrini de Flaubert dans les programmes scolaires. Le 14 mars, Hans Fernhoff de l'Université de Stockholm parlera de la réception et de la traduction de Flaubert en suédois. Et Atsushi Yamazaki évoquera la question des médiations dans Bouvard et Pécuchet. Donc Atsushi Yamazaki, qui est un universitaire de l'université de Nagoya. Le 25 avril, Judith Lioncamp viendra parler de Bourdieu et de son rôle de médiateur de l'œuvre de Flaubert. Et le 16 mai, Stéphanie Dorcoulet et Pierre Louiret parleront de leur expérience de l'édition de trois contes en Pléiade. C'est le dernier volume des œuvres complètes de Flaubert en Pléiade, qui est encore inédit, mais dont la parution ne devrait plus trop tarder. Alors pour entamer cette année de travaux flaubertiens, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Vanessa Guignery, qui est professeure de littérature anglaise contemporaine et de littérature postcoloniale à l'École normale supérieure de Lyon. Elle a publié de nombreux articles sur des auteurs anglais contemporains, entre autres David Lodge, Jonathan Coe, Zadie Smith, Alain de Botton, mais aussi plusieurs ouvrages, dont des essais sur B.S. Johnson et une monographie sur Jonathan Coe. Elle mène régulièrement des entretiens avec des écrivains, comme par exemple Ian McEwan. Elle est l'auteur de plusieurs livres et essais sur l'œuvre de Julian Barnes, dont The Fiction of Julian Barnes, paru en 2006, et Conversations with Julian Barnes, paru en 2009. Et elle vient de terminer un livre sur les archives de Julian Barnes, sur ses brouillons, ses carnets de notes, qui paraîtra en 2020, et a donc accepté de nous donner un aperçu de ses découvertes en avant-première au séminaire Flaubert, en nous parlant de la genèse du perroquet de Flaubert, un des livres les plus connus de Julian Barnes, paru en 1984. Sa communication devrait donc nous permettre d'entrer de plein pied dans la question de la médiation flaubertienne, puisque ce curieux ouvrage de Julian Barnes est le roman d'une enquête sur Flaubert qui entretient une proximité et une distance joueuse avec la question de la biographie flaubertienne. L'épigraphe de ce roman est une citation de Flaubert tirée de la correspondance. « Quand on écrit la biographie d'un ami, on doit le faire au point de vue de sa vengeance. » Le perroquet de Flaubert n'est certes pas une biographie, c'est un roman sur une enquête biographique, ce qui change tout. Toutefois, le livre de Julian Barnes montre bien le lien très amical et presque fraternel que l'auteur entretient avec Flaubert, et aussi un certain souci chez Barnes de venger Flaubert de tous les torts qu'on a pu lui causer. La communication de Vanessa Guignery va donc nous permettre de revenir sur les origines de cette affinité entre Julian Barnes et Flaubert et sur la manière dont Barnes a échafaudé à travers son livre la vengeance de son ami Gustave. Alors, je vais lui laisser la parole avec donc, la communication intitulée « Le perroquet de Flaubert de Julian Barnes, genèse d'une passion littéraire ».
Merci beaucoup. Donc, je tiens tout d'abord à remercier Juliette Azoulay et Florence Pellegrini de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à cette première séance du séminaire Flaubert 2019-2020. Et c'est par l'intermédiaire, ou par la médiation peut-être, de l'écrivain britannique Julian Barnes et de son ouvrage le plus célèbre, donc Le perroquet de Flaubert, Flaubert's Parrot, publié en Grande-Bretagne en 1984, en France en 1986, dans une traduction de Jean Guillouaneau, que je vais prendre part à vos travaux. Puisque ce séminaire s'inscrit dans le cadre de l'ITEM, dont la mission est de contribuer à la contribution du processus créateur en analysant les documents qui témoignent de la genèse des œuvres, j'ai choisi de vous présenter une partie du résultat de mes recherches sur les archives de Julian Barnes, et plus spécifiquement, bien entendu, celles relatives au perroquet de Flaubert, qui sont préservées au Harry Ransom Humanities Center à l'Université du Texas à Austin. J'ai commencé à consulter ces archives en 2006, mais c'est seulement il y a quelques années que j'ai eu l'idée de consacrer un ouvrage au processus créateur de Julian Barnes et plus précisément à la genèse de plusieurs de ses romans. J'ai alors pu partager la passion des généticiens dont parle Almud Grésillon dans « Éléments de critique génétique, lire les manuscrits modernes », je cite « passion de pénétrer dans l'espace interdit de la coulisse et passion policière de vouloir révéler le secret de la fabrique ». Aujourd'hui, je propose donc de me concentrer sur le perroquet de Flaubert et sur son avant-texte afin de dessiner certaines des étapes qui ont pu mener à la composition de cet ouvrage hybride, transgénérique, qui comporte, vous le voyez ici, l'indication « roman » sur la page de couverture chez Stock, cette édition rose, mais qui a pourtant reçu le prix Médicis Essai. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient peu Julian Barnes ou n'auraient pas en mémoire le perroquet de Flaubert, je commencerai par une très brève présentation de l'auteur et de l'ouvrage, avant de donner quelques éléments de la genèse du perroquet de Flaubert et de m'attarder sur certains aspects du processus créatif afin de mieux comprendre les modes d'appréhension de l'œuvre et de la vie de Flaubert proposés par Julian Barnes. Mon propos est en partie de tracer les contours de la passion littéraire de Barnes pour Flaubert et de le situer sur une ligne qui oscille entre psittacisme et émancipation. J'essaierai donc en particulier de déterminer quel procédé l'auteur contemporain met en place pour à la fois rendre hommage à son héros littéraire et s'en émanciper pour laisser entendre une voix singulière. Donc Julian Barnes est né en 1946 de parents professeurs de français. Et dans l'introduction à son recueil « Quelque chose à déclarer »,« Something to declare », il se souvient de ses divers séjours en France avec ses parents à l'adolescence. Il passera lui-même un an en France en tant qu'assistant d'anglais dans un collège catholique à Rennes en 1966-67. Il est diplômé d'Oxford, où il décrocha en 1968 une licence de littératures étrangères, français et russe, mais il n'appartient pas au monde universitaire, dont il aime se moquer avec toujours une pointe d'ironie. Il a débuté sa carrière comme lexicographe auprès du supplément de l'Oxford English Dictionary, avant d'être journaliste littéraire, critique de télévision, mais aussi critique gastronomique. Il publie son premier roman, Metroland, en 1980, et il est aujourd'hui l'auteur de 13 romans, 3 volumes de nouvelles, 7 ouvrages de non-fiction et 4 romans policiers publiés sous un pseudonyme. Lorsque on le fit officier de la Légion d'honneur le 19 juin 2017 à Londres, il cita l'axiome de Flaubert, tiré d'une lettre à Guy de Maupassant du 15 janvier 1879, je cite « Les honneurs déshonorent, le titre dégrade, la fonction abrutit ». Avant d'ajouter que Flaubert avait accepté la Légion d'honneur en tant que chevalier en 1866, même s'il retira son ruban par la suite, et que donc Barnes lui-même pouvait bien accepter la Légion d'honneur. La relation de Barnes avec Flaubert se noue à l'âge de 15 ans, quand il lit Madame Bovary pour la première fois, avant de l'étudier plus tard à l'université, et d'en devenir un fervent admirateur, au point plus tard d'acquérir une première édition anglaise de Madame Bovary, publiée en 1886 dans une traduction d'Eleanor Marx Aveling. En 1996, il se verra également offrir par sa maison d'édition une lettre originale de Flaubert pour célébrer le million d'exemplaires de ses ouvrages vendus en livres de poche. Dès son premier roman, Metroland, qui est un Bildungsroman, Barnes rend un hommage discret à Flaubert, puisque le narrateur fait allusion au dictionnaire des idées reçues, à l'éducation sentimentale et à Madame Bovary, à des moments clés de l'évolution de ce personnage, à des étapes très importantes de sa vie, de l'adolescence à l'âge adulte. Après la publication du Perroquet de Flaubert en 1984, Barnes sera très souvent sollicité pour écrire des articles sur Flaubert et des comptes rendus, par exemple des carnets de travail dans l'édition de Pierre-Marc de Biasi et des différents volumes de la correspondance dans la Pléiade, mais aussi des comptes rendus de traductions en anglais de la correspondance ou encore de diverses biographies. En 1998, le Times Literary Supplement demande à Barnes de faire la critique du quatrième volume de la correspondance de Flaubert et l'éditeur envoie la note suivante à Barnes. Pourrions-nous avoir 1 million de mots, s'il vous plaît, pour le 13 avril, si possible? Outre ses préfaces à des éditions allemandes et anglaises du Dictionnaire des idées reçues et son avant-propos à l'édition française du Sottisier de 1995 paru chez Nil Éditions, Barnes a consacré une vingtaine d'articles et essais à Flaubert entre 1980 et 2011. J'ai mis la liste ici qui est bien sûr illisible, mais ça vous permet de voir qu'il y en a un certain nombre, dont certaines ont été recueillies dans Quelque chose à déclarer. Donc, dans l'introduction à ce livre, Quelque chose à déclarer, où sont donc rassemblés certains de ces textes consacrés à Flaubert, Barnes rappelle la remarque d'un de ses illustres compatriotes, Kingsley Amis, à son égard, qui disait « J'aimerais bien qu'il la boucle avec Flaubert ». Et Barnes l'ajoutait « Ne pas la boucler avec Flaubert reste un plaisir nécessaire, et donc il ne la bouclera jamais ». 5 années plus tard, dans « Rien à craindre », qui est une méditation douce amère sur la mort et la religion, Barnes prête voix à des romanciers, des musiciens, des penseurs célèbres qu'il considère comme sa seconde famille. Et évidemment, en bonne place, figure l'ombre tutélaire de Flaubert. Début novembre, donc le mois prochain, Barnes publiera un nouvel ouvrage de non-fiction qui s'intitule « The Man in the Red Coat », qui s'intéresse à la figure du chirurgien Samuel Pozzi à la fin du XIXe siècle. Et il y dresse un portrait de la Belle Époque à Paris. Et là encore, il inclut plusieurs citations de Flaubert. Donc Flaubert est toujours présent dans l'œuvre de Barnes. C'est toutefois, bien sûr, le Perroquet de Flaubert qui consacre le plus frontalement l'écrivain français et qui donne l'occasion d'une déambulation dans la vie et les œuvres de Flaubert, mais aussi d'un dialogue créatif dans un ouvrage qui emprunte à la biographie, à l'ouvrage de critique littéraire, à l'essai et à la fiction. Barnes se souvient qu'au moment de la rédaction, l'idée que son ouvrage puisse être traduit en français et lu par de prestigieux spécialistes de Flaubert en France, donc vous-même, ne lui traversa pas l'esprit un seul instant, le libérant ainsi de toute inhibition. Le narrateur du Perroquet de Flaubert, qui s'appelle Jeffrey Braithwaite, son nom est indiqué ici, est un médecin à la retraite, veuf et passionné de Flaubert. Au cours de 15 chapitres, autant que dans Salammbô, l'ouvrage propose une plongée vertigineuse dans l'univers flaubertien, mêlant genres et voix. Bien que le narrateur fournisse un grand nombre de données biographiques sur Flaubert, ce livre ne s'apparente nullement à une biographie traditionnelle. Au contraire, il en déjoue les conventions et fait prévaloir une structure fragmentée et protéiforme en interaction constante avec les écrits de Flaubert tirés de sa correspondance et de ses œuvres de fiction. Donc je suggère à présent de jeter un œil à la table des matières pour se rendre compte de la diversité des genres et des formes déployées par Barnes pour aborder Flaubert. Alors, je commencerai par le deuxième chapitre qui apparaît en noir sur l'écran. Dans le deuxième chapitre, par exemple, au lieu de proposer une chronologie conventionnelle de la vie de l'écrivain, le narrateur en juxtapose 3, qui offrent des points de vue parfois contradictoires. Donc, la première est centrée sur ses succès, la deuxième sur ses échecs, tandis que la troisième se compose d'une série de métaphores et de comparaisons de Flaubert lui-même. Dans le chapitre 4, il inclut un bestiaire composé là aussi de comparaisons et métaphores relatives aux animaux dans l'œuvre et la correspondance de Flaubert. Dans le chapitre 6, il se moque des travaux universitaires de critique littéraire lorsqu'il analyse la variation de la couleur des yeux d'Emma Bovary. Les chapitres suivants comprennent un guide des allusions et références au train dans la vie et l'œuvre de Flaubert, un guide, la liste des œuvres que Flaubert n'a pas écrites, mais dont il a eu le projet, et des vies qu'il n'a pas vécues, mais dont il a rêvé. Un réquisitoire, au cours duquel le narrateur répond à une série d'accusations à l'encontre de Flaubert. Ensuite, un chapitre donne la parole à Louise Collet, qui livre sa propre version de sa relation tumultueuse avec Flaubert. Et pour cela, Barnes s'est inspiré des mémentos de Louise Collet, mais aussi de la partie de sa correspondance qui a survécu. Un autre chapitre pastiche le dictionnaire des idées reçues. Et enfin, l'avant-dernier, intitulé « Épreuve écrite », propose une série de sujets d'examen relatifs à Flaubert, comme pour tester les connaissances du lecteur à la fin de l'ouvrage. Par le biais de ses formes originales et variées, Braithwaite aspire ainsi à multiplier les perspectives sur Flaubert, mais aussi parfois à saisir et épouser la voix du maître, se transformant pour ce faire en perroquet de Flaubert, tout à la fois répétiteur, copieur et imitateur. Cette entreprise est aussi un moyen pour le narrateur fictif de trouver un dérivatif à sa peine, consécutive à l'adultère et au suicide de son épouse, double contemporain d'Emma Bovary. L'ouvrage comprend donc également des chapitres plus fictionnels, ce sont ceux qui apparaissent en bleu sur le PowerPoint, et ce sont ces chapitres qui justifient l'appellation « roman ». Dans une lettre à son éditeur, malheureusement non datée, mais qui a sans doute été envoyée avec le manuscrit, Barnes s'efforça d'expliquer son approche. Et il insista sur le fait que son ouvrage n'était ni une biographie, ni un livre de critique universitaire. Je cite « Il n'y a pas lieu d'ajouter au tumulus biographique et critique. Je voulais trouver une méthode différente pour faire revivre, voir, célébrer, revoir, réexaminer Flaubert. Une méthode qui peut ne pas tenir compte des approches chronologiques et universitaires traditionnelles et en même temps proposer toutes sortes d'angles différents, d'où la structure fictionnelle. » Et il résume le propos de son livre un petit peu plus loin dans ce brouillon de lettres. Donc, c'est un livre sur Flaubert, sur l'écriture, pas l'écriture au XIXe siècle, l'écriture aujourd'hui aussi, et une demi-fiction en soi. J'espère que ça ne donne pas l'impression que c'est un livre aride et théorique, ce n'est pas censé l'être. Ce n'est pas non plus censé être un livre spécialisé, ni un livre universitaire. L'idée n'est pas d'ajouter une note de bas de page aux études sur Flaubert ou quoi que ce soit. L'idée est de raconter des histoires. Ce qui est amusant et représente un défi est en partie de créer des histoires à partir de sujets peu évidents. Des histoires qui s'inspirent de la vie d'un écrivain. Voilà donc comment Barnes présentait son ouvrage à son éditeur, indiquant ce qu'il est mais aussi ce qu'il n'est pas, et insistant sur la dimension fictionnelle, le fait de raconter des histoires. Alors avant de s'intéresser aux spécificités du texte publié, je voudrais revenir en arrière pour me demander comment Barnes en est arrivé à concevoir un tel ouvrage et comment cet ouvrage s'inscrit dans son parcours d'écrivain. Quand Barnes commence à songer à ce projet au début des années 80, il est l'auteur de seulement deux romans très courts et relativement conventionnels. Donc « Metroland », dont j'ai déjà parlé, et puis son deuxième roman « Avant moi, Before She Met Me », publié en 1981. Ce sont des ouvrages qui se vendent environ à 1000 exemplaires en édition reliée en Angleterre, et ils ne seront traduits que bien plus tard en France, en 1995 et 91 respectivement. Mais il est aussi et surtout, au début des années 80, l'auteur de deux romans policiers, publié sous le pseudonyme de Dan Kavanagh, Duffy, traduit comme La nuit est sale, et Fiddle City, traduit par Le port de la magouille, publié dans la série noire de Gallimard à peine un an après leur parution en Angleterre. Et ces ouvrages se vendent mieux que les deux premiers romans publiés sous son nom. Alors certes, Metroland lui a valu d'être le lauréat du prix Somerset Maugham, mais il n'a pas connu un grand succès de librairie, tandis que ses amis écrivains, Martin Amis et Ian McEwan, sont déjà consacrés par la critique. Après la publication de son deuxième roman, donc « Avant moi », Barnes commence la rédaction d'un troisième, qui n'est pas « Le perroquet de Flaubert », un troisième roman, toujours de faction relativement traditionnelle, qui suit un personnage féminin de l'adolescence à la vieillesse, de la Deuxième Guerre mondiale à l'année 2020. Mais l'intérêt qu'il nourrit pour Flaubert depuis plusieurs années ne faiblit pas, et en fait cet intérêt viendra interrompre ce projet de livre plutôt conventionnel qui ne sera publié qu'en 1986, donc après Le perroquet de Flaubert, sous le titre Staring at the Sun, Le soleil en face. Donc, Le perroquet de Flaubert est venu perturber le programme d'écriture de Barnes. Et en effet, quand on consulte ses carnets de notes, on note que quand il dresse la liste des romans qu'il veut écrire, on ne trouve pas de traces du perroquet, alors que ses premiers romans apparaissent bien. Par exemple, sur cette première liste tirée de son carnet de notes, qui est écrite après la publication de Metroland, on voit une référence à son deuxième roman sur la jalousie sexuelle, Before She Met Me, avant moi, puis une référence à un roman situé pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qui deviendra Le soleil en face, mais aussi, en troisième, une idée de roman sur la relation entre un homme jeune et une femme plus âgée, et ce roman ne verra le jour qu'en 2018, sous le titre La seule histoire. Dans une deuxième liste du même carnet de notes, les mêmes idées de roman figurent sous des intitulés un petit peu différents, donc tout d'abord Metroland, qui est déjà terminé, puis The Honey Time, qui était en fait le titre de travail du premier chapitre de Avant moi, donc son deuxième roman. Ensuite, il envisage de combiner deux pistes possibles, un roman sur la Deuxième Guerre mondiale et un autre sur la mort, et c'est ce qui deviendra Le soleil en face. Et puis, il introduit deux nouvelles idées de roman. Mais, de nouveau, aucune mention du perroquet n'apparaît. Et donc, on peut se demander comment l'idée lui est venue alors qu'il semblait avoir bien programmé son programme d'écriture. L'idée trouve son origine dans un voyage effectué en Normandie en septembre 1981, alors qu'un éditeur anglais lui avait demandé d'écrire un guide des maisons d'écrivains et artistes français, livre qu'il ne commença d'ailleurs jamais. Julian Barnes m'a permis de photographier son carnet de voyage de l'époque. C'est un carnet qu'il a gardé dans sa maison londonienne et qu'il n'a pas confié aux archives au Texas. Alors, sur la première page de ce carnet, vous voyez en haut à gauche qu'il est indiqué Normandie, Loire, septembre 1981. Et puis, sur la page de droite, on peut suivre son parcours qui le conduit de Dieppe au château de Vascoeuil, où Michelet eut un cabinet de travail, à la maison de Claude Monet à Giverny, au château de Sully-sur-Loire, qui accueillit Voltaire en 1715, et le périple se poursuit ainsi jusqu'à Rouen pour voir la maison natale de Corneille, celle de Flaubert, où se trouve le musée Flaubert et d'histoire de la médecine, et le pavillon de Croisset. Dans les pages qui suivent, il prend quelques notes sur ces différents bâtiments, puis en bas de page, il s'attarde sur la statue de Flaubert à Rouen. Alors, j'ai traduit ce passage ici. Statue de Flaubert, place des Carmes, regard porté vers le haut avec un certain mépris, la moustache qui dépasse, dédaignant le jeu de boules qui se déroule sous ses pieds. Alors, il est intéressant que ceci soit la toute première notation à propos de Flaubert dans son carnet de voyage, car Le perroquet de Flaubert débute précisément par cette image. Donc voici le début du perroquet de Flaubert. Six Nord-Africains jouaient aux boules sous la statue de Flaubert, et quelques lignes plus loin, Flaubert ne regarde pas. Il a les yeux fixés vers le sud, de la place des Carmes vers la cathédrale, au-dessus de la ville qu'il méprisait et qui, en retour, l'a bien ignorée. La tête est dressée, comme sur la défensive. Alors, il n'est pas anodin que le narrateur, ou peut-on dire Barnes, ait choisi d'ouvrir son ouvrage sur la statue magistrale, Célébration de l'homme avant l'œuvre. Une statue qui témoigne de l'intérêt du narrateur et de Barnes pour la dimension biographique. En même temps, cette statue pétrifie l'auteur, le fige dans une pose. Et c'est aussi ce que Barnes reproche au genre biographique, dont il déplore les certitudes et la façon dont elle se substitue parfois aux textes originaux. Dans le premier chapitre du perroquet de Flaubert, le narrateur, qui a pourtant débuté son ouvrage sur la statue, se demande, je cite, « Pourquoi l'écriture nous fait-elle poursuivre l'écrivain? Pourquoi ne pouvons-nous pas le laisser en paix? Pourquoi les livres ne sont-ils pas suffisants ?» Donc le perroquet de Flaubert se situe ainsi sur la défensive dès le début, comme la statue de Flaubert et son regard, sur la défensive vis-à-vis du genre biographique. En même temps, il se place aussi sous le signe du jeu, hein, le jeu de boules, tel qu'il est mis en avant dans la première phrase du roman. Et cette dimension ludique sera récurrente dans l'ouvrage. Pour revenir au carnet de voyage de septembre 1980, il se poursuit avec 4 pages de notes, tout d'abord essentiellement sur Flaubert, hein, pas sur les autres maisons. Tout d'abord sur le musée Flaubert, où Barnes remarque le perroquet. « Bright green and perky-eyed, vert vif et l'œil guilleret », celui-même qui fut prêté à Flaubert au moment de l'écriture d'Un cœur simple. Puis suit une description de Croisset, « The high point of pilgrimage », le point culminant du pèlerinage. Suit alors un bref historique de la maison qui fut détruite en 1883, et enfin une description du pavillon de Croisset et de son contenu extrêmement détaillé, avant de conclure sur le perroquet, un deuxième perroquet donc au pavillon de Croisset. Et vous voyez que Barnes souligne sur la cinquième ligne « Another parrot ». Celui-ci serait également l'authentique perroquet emprunté par Flaubert au moment où il écrivit « Un cœur simple ». Ce mystère des deux perroquets concurrents est donc ce qui va lancer la quête et l'enquête du narrateur fictif dans le perroquet de Flaubert. Et les notes prises par Barnes en 1981 vont bien entendu alimenter l'ouvrage. Pourtant, à l'époque, Barnes ne vit pas dans cette énigme des perroquets l'étincelle qui marque le début d'un livre, mais seulement des notes innocentes. Il dira plus tard, un fait curieux, une demi-anecdote. Ce que Pierre-Marc de Biasi, dans sa chronotypologie de Brouillon, a nommé un avant-texte provisionnel, où le principe même de finalisation n'est pas encore établi. Barnes s'est demandé s'il pourrait écrire un article de type universitaire sur le sujet des deux perroquets, avant de se raviser, parce que ce n'est pas du tout le type de texte qu'il écrit. Il avait besoin d'un intermédiaire, d'une médiation, pour raconter cette histoire. Et c'est pour cette raison qu'il a créé le personnage de Jeffrey Braithwaite, un personnage fictif, passionné de Flaubert et quelque peu pédant et obsédé. Il rédigea alors une histoire indépendante, une nouvelle fictionnelle, où le narrateur partageait des détails de sa vie qu'il mettait en regard de la vie et de l'œuvre de Flaubert. Et cette nouvelle se terminait par la découverte du deuxième perroquet. Mais une fois ce texte achevé, il se rendit compte que ce n'était finalement pas une nouvelle indépendante, mais le début d'un projet où il pourrait faire dialoguer le réel et le fictionnel, le 19e siècle et l'époque contemporaine. Et donc pendant 2 ans, il poursuivit son travail sur Flaubert, à la fois pour ce projet semi-fictionnel, mais aussi pour une autre réalisation. En effet, en même temps que Le perroquet de Flaubert, Barnes écrivit un documentaire sur Flaubert pour une série de la BBC, consacré au lieu des écrivains. Et c'est donc pour ces deux projets, le roman et le documentaire, que Barnes retourna à Rouen en août 1982. Et son carnet de l'époque porte sur la page de droite le titre « Flaubert Research », « Recherche sur Flaubert ». Et il se concentre de nouveau sur le mystère des deux perroquets, vous voyez, « The Secret of the Two Parrots », comme il est écrit à la fin du premier paragraphe. Donc Barnes retourne en particulier au musée de l'Hôtel-Dieu et au pavillon de Croisset. Il rencontre Lucien Andrieux, le secrétaire de la Société des Amis de Flaubert, et c'est également ce que fait son narrateur fictionnel dans Le perroquet de Flaubert, qui entreprend aussi un second voyage à la même date que Barnes, c'est-à-dire en août 1982. Donc les notes prises dans cette partie du carnet ont très clairement inspiré à Barnes le dernier chapitre du roman, intitulé « Et le perroquet ?» et l'on voit bien à quel point l'enquête réelle de Barnes est dupliquée dans l'enquête fictionnelle de Jeffrey Braithwaite. Cet enchevêtrement entre le réel et le fictionnel se poursuit l'année suivante, en août 1984, lorsque Barnes publie dans la London Review of Books sa nouvelle indépendante sous le titre « Flaubert's Parrot, a Story », une histoire, qui est une version très proche du premier chapitre du perroquet de Flaubert. On note ici son insistance sur la dimension fictionnelle par l'ajout de l'étiquette « A Story ». Dans les premiers brouillons, cette nouvelle, qui deviendra le premier chapitre du futur roman, s'intitulait « Le perroquet de Flaubert, quelques questions sans réponse »,« Some unanswered questions ». Et donc le titre supposait déjà une suite pour tenter de répondre à ces questions. Donc, cette nouvelle est publiée en août 1983. Et la même semaine est diffusé le documentaire sur Flaubert que Barnes écrivit et réalisa pour la BBC, intitulé « A Complex Heart, Gustave Flaubert, 1821-1880 ». Et toujours la même semaine, en août 1983, il publie un essai intitulé « Flaubert et Rouen », qui est une version remaniée du script du documentaire et où, là encore, la statue de Flaubert figure en bonne place et où l'on retrouve de nombreux faits biographiques qui sont consignés dans le perroquet de Flaubert. On note donc, par ces trois réalisations, la nouvelle, le documentaire, l'essai, combien Barnes varie les supports pour tenter de cerner celui dont il indique qu'il est son icône littéraire depuis l'âge de 15 ans. Dans l'essai « Flaubert et Rouen », Barnes s'interroge d'ailleurs sur sa relation passionnelle à Flaubert. Et il note, donc en 83, « Il ne s'agit pas d'influence directe, ni de tentation d'imitation. Il s'agit plutôt de sentir que quelqu'un de compatissant est passé par là avant vous, a déjà tout vu et vous observe du coin de l'œil, avec bienveillance, osez-vous l'espérer. » Il semble donc que Barnes ne se reconnaît pas dans l'angoisse de l'influence dont parlait Harold Bloom et ne cherche pas davantage comme Proust la vertu purgative exorcisante du pastiche. Dans « Voleur de mots », Michel Schneider souligne que Flaubert s'étourdissait dans la lecture d'ouvrages passés comme pour se rassurer avant d'écrire à son tour. Schneider note, je cite, « Flaubert veut entendre une voix, une autorité, une autorisation, un auteur, une présence écrite qui le devance. » Si Barnes recherche lui aussi une voix ancestrale qui, à défaut de le rassurer, du moins l'accompagne, il opère simultanément dans le perroquet de Flaubert une translation d'un siècle à un autre, d'une culture à une autre, d'une langue à une autre. Et c'est peut-être au creux de ces multiples transferts que s'établit un équilibre entre révérence et originalité, entre répétition et différence. Alors, pour revenir à l'avant-texte du perroquet de Flaubert, si l'on connaît à présent quelques éléments de la genèse du premier et du dernier chapitre, qu'en est-il des 13 autres chapitres et comment Barnes en est-il arrivé à écrire cet objet hybride ? Un autre carnet de notes de l'écrivain, celui-ci préservé à Austin au Texas, révèle qu'il avait dressé une liste des 11 histoires de Flaubert, Flaubert Stories, dont il souhaitait traiter. On note que cette liste comprend d'ores et déjà le premier et le dernier chapitre, hein, Parrot and the Parrot, perroquet et le perroquet. Pour le reste, et pour citer Daniel Ferrer, on peut dire que la liste suggère des mondes possibles, des matrices de texte. Donc je l'ai transcrite et j'ai ajouté des couleurs pour qu'elle soit un petit peu plus lisible. Alors on voit dans cette liste des chapitres très clairement biographiques, en vert, hein, les 2, 4 et 6, c'est suggéré par le nom des personnes que Flaubert a fréquentées, comme la gouvernante anglaise Juliet Herbert, son amante Louise Collet ou encore Eliza Schlesinger. On note également deux histoires en bleu, la 3 et la 9, qui concernent la traduction, qui est une forme de médiation, et je reviendrai là-dessus plus tard. Une autre histoire, la 5 en orange sur le PowerPoint, porte sur les erreurs en littérature et le défaut de fiabilité de certains des témoins de la vie de Flaubert. Deux autres, la 7 et la 10 en violet, intriguent par des titres allusifs, ironie et coïncidence, et puis end sex. Certaines de ces histoires deviendront des chapitres à part entière, par exemple sur la relation de Flaubert et Juliet Herbert, ou encore la version de Louise Collet, ou les erreurs en littérature et les coïncidences, tandis que d'autres ne formeront pas de chapitre à part entière, mais seront intégrés à d'autres chapitres. Ce qui est marquant dans cette première liste est l'absence de référence au volet fictionnel de l'ouvrage, et donc la confirmation d'une nette prévalence de la dimension autobiographique. Plus loin dans son carnet, Barnes dresse une nouvelle liste d'histoires, dont certaines sont déjà rédigées, « written », l'écrivain en dénombre 13, et d'autres sont en cours, underway, et il dit que celles-ci peuvent aller jusqu'à 22. Pour citer Rudolf Maurer, Gaspard Turin et Monica Zanardo dans leur introduction au numéro 47 de Genesis, intitulée « Entrée en liste », cette deuxième liste dressée par Barnes a donc une valeur récapitulative. Je cite « résumant le matériel déjà disponible pour en raffermir la mémoire, en construire une vision synoptique et aider à sa réorganisation. La liste arpente le déjà produit pour relancer une nouvelle phase de production. C'est peut-être à ce moment de l'élaboration du perroquet de Flaubert que se situe ce que Pierre-Marc de Biasi nomme, à propos des genèses flaubertiennes, l'instant de formation de l'œuvre, ce moment d'épiphanie rédactionnelle qui marque dans le travail de l'écriture un certain renversement décisif du possible en nécessaire, du probable en probant. En effet, même si des incertitudes persistent, Barnes est à présent suffisamment avancé dans la rédaction pour avoir une idée bien affirmée de la forme de son ouvrage. Alors, j'ai également transcrit cette liste par souci de visibilité. On voit dans cette liste l'introduction de sujets plus littéraires et moins strictement biographiques. Par exemple, ceux qui apparaissent en vert, les numéros 7 et 8, soit le guide des références au train et le bestiaire dans l'œuvre de Flaubert. On note aussi en bas de liste, toujours en vert, un chapitre consacré aux œuvres apocryphes. On remarque également l'apparition à deux reprises d'un chapitre intitulé « Dictionnaire des idées reçues ». C'est en rouge sur le PowerPoint. Et donc, qui annonce un pastiche. On note aussi sur la gauche en bleu qu'il note à une histoire purement fictionnelle, pure story, et c'est ce qui deviendra l'antépénultième chapitre de l'ouvrage. Un aspect ludique est introduit avec l'idée d'un quiz qui apparaît à deux reprises en violet sur le PowerPoint, un quiz sur la vie et l'art à gauche et un quiz sur Eleanor Marx et Emma Bovary. Emma Bovary, et on retrouvera ces quiz dans les sujets d'examen de l'avant-dernier chapitre. On voit donc dans cette deuxième liste que Barnes varie bien davantage les genres, puisqu'il entrelace les approches biographiques, littéraires, fictionnelles et le pastiche dans un esprit que l'on devine ludique. Cette dimension ludique est typique de l'esthétique postmoderniste dans la littérature britannique contemporaine, tout comme la prédominance du sentiment de fragmentation et d'hétérogénéité. Il s'agit en effet ici de multiplier les angles, les points de vue, les micro-histoires, mais aussi les versions potentiellement contradictoires sur Flaubert, sans faire prévaloir un discours unique, gonflé de certitude. L'originalité de l'ouvrage se loge donc dans cette multiplicité générique qui offre un regard décalé sur la vie et l'œuvre de Flaubert, mais aussi dans le choix d'un narrateur fictionnel qui sert d'intermédiaire avec le lecteur. Dans sa lettre à son éditeur, Barnes justifie le choix de cette voie atypique qui doit, je cite, « offrir davantage de points d'accès à Flaubert et un éventail plus large de perspectives ». Contrairement à un critique littéraire ou un biographe traditionnel qui doit apporter les preuves de ce qu'il avance, ce narrateur, parfois excessif, peut se permettre de prendre des risques, d'émettre des hypothèses un peu folles et de laisser persister des points de vue et versions discordantes. Les listes que je viens de montrer révèlent également une des spécificités du processus créateur chez Barnes, à savoir le fait que son mode opératoire participe davantage de ce que Louis Hay a nommé l'écriture à programme, donc qui est fondée sur des plans détaillés, des stratégies programmées, que de l'écriture à processus surgisse, je cite, « d'un mouvement soudain de la conscience et lançant à sa suite la course des mots et des images ». Pour citer les responsables du numéro 47 de Genesis sur les listes, cette préparation méthodique de l'œuvre est une technique de contrôle sur la création qui laisse transparaître une volonté de réduction de l'arbitraire. Une autre spécificité du perroquet de Flaubert est la façon dont le narrateur ne craint pas, semble-t-il, d'être submergé par la voix de Flaubert. Certains chapitres ont en effet été écrits sous la forme de centons, c'est-à-dire de compilations de citations de Flaubert, transformant de ce fait le narrateur en copiste ou perroquet. Alors, en anglais, une expression employée pour désigner un assemblage de citations qui peut former une histoire ou un poème, est le terme « found story », histoire trouvée. Et c'est une expression que Barnes utilise à plusieurs reprises dans ses notes et dans sa lettre à son éditeur pour évoquer plusieurs de ses chapitres. Par exemple, la troisième chronologie est entièrement composée de métaphores et comparaisons extraites de lettres de Flaubert précédées de leur année de rédaction. Et il fait référence à cette chronologie comme « a found story », une histoire trouvée. Vous voyez ici que les citations sont reproduites sans guillemets et sans que leur auteur ni la source ne soient citées, au point que certains critiques ont cru qu'il s'agissait d'un pastiche, alors que ce sont des citations bien authentiques. Cette chronologie commence en 1942 par, je cite, « Mes livres et moi dans le même appartement, c'est un cornichon et du vinaigre », et se termine en 1880 par la citation suivante, « Par moments, il me semble que je me liquéfie comme un vieux camembert, tant je me sens fatiguée ». Alors, dans le premier brouillon de cette chronologie, Barnes avait assemblé 64 citations, dont il ne conserva que 31 pour la version publiée. Dans son brouillon, pour chaque citation, il avait indiqué la référence de page dans l'édition de la Pléiade, la date précise avec le jour, le mois et l'année, et parfois le destinataire. Et quand la citation apparaissait dans la sélection des lettres de Flaubert traduites en anglais par Francis Stigmala, Barnes indiquait entre parenthèses ST pour Stigmala, suivi du numéro de page. Toutefois, Barnes a traduit lui-même la plupart de ses citations, qu'elles figurent ou non dans l'édition anglaise. Et sa traduction, dont on peut dire qu'elle est une médiation, diffère très souvent de celle de Stigmala, même s'il s'est inspiré de ce modèle. Dans l'édition anglaise, il inclut d'ailleurs une note en ouverture qui indique, donc je l'ai traduite puisqu'elle n'apparaît pas évidemment dans la version française, je cite, « Les traductions dans ce livre sont de Geoffrey Braithwaite, mais il n'aurait pu accomplir cette tâche sans le modèle impeccable de Francis Stigmala. » Donc le livre s'ouvre d'emblée sur cette note ludique, puisqu'il met sur le même plan le narrateur fictif, Geoffrey Braithwaite, plutôt que l'auteur réel, Julian Barnes, et le traducteur authentique des lettres de Flaubert en anglais. Les brouillons de Barnes révèlent ses hésitations pour quelques traductions. Par exemple, pour la première, « Mes livres et moi dans le même appartement », on voit qu'il hésite entre plusieurs traductions. « Me and my books »,« My books and I »,« I and my books ». Mais dans l'ensemble, on note relativement peu de ratures et de corrections dans ces pages, même si Barnes s'interroge souvent sur la justesse de sa traduction. Par exemple, dans cette citation, vous voyez en bas à droite, il écrit « Is this right ?» Est-ce que c'est correct ? Donc, finalement, il ne gardera pas cette citation dans la version finale. Alors, il faut noter que les références très précises de jours et de mois dans les citations et de pages dans la Pléiade et parfois dans l'édition anglaise qui figuraient sur le premier brouillon ont été supprimées pour la version publiée. On voit bien que Barnes n'a conservé que l'année, ce qui correspond finalement aux présentations habituelles des chronologies et qui montre qu'il n'a pas suivi les conventions d'un ouvrage universitaire ou d'une biographie où les citations apparaîtraient entre guillemets. Un autre chapitre avait été rédigé de la même manière que la troisième chronologie, mais n'a pas été retenu pour la version publiée. Il s'agit du chapitre qui, dans plusieurs versions de la table des matières et des tapuscrits, porta divers titres comme « And Sex »,« Sex Story »,« Sex and Literature », mais aussi « Dirty Story », qu'on pourrait traduire par « Histoire cochonne »,« Seul » ou bien « Dirty Story », The Composition of Madame Bovary. Ce chapitre s'ouvre sur l'entrée érection du Dictionnaire des idées reçues, je cite Flaubert, ne se dit qu'en parlant des monuments. Puis il est composé d'extraits de la correspondance de Flaubert, organisés chronologiquement de 1847 à 1856. Et dans ces citations, Flaubert déploie des métaphores sexuelles pour parler de littérature ou de créativité. Il écrit par exemple à Louise Collet le 17 février 1853 que sa Bovary n'avance pas. Et il ajoute « Les érections de la pensée sont comme celles du corps, elles ne viennent pas à volonté. » Le 27 mars 1853, il évoque les moments où il est enivré de sa propre pensée et il note « Quelque chose de profond et d'extra-voluptueux déborde de moi à jet précipité comme une éjaculation de l'âme. » Donc, comme pour la chronologie, Barnes indiqua sur son tapuscrit la date de la lettre et le numéro de page dans l'édition de la Pléiade et dans la traduction anglaise éventuellement, mais souvent en modifiant la traduction originale. Barnes décida toutefois de supprimer ce chapitre très tardivement. D'une part parce qu'une amie qui lit toujours ses manuscrits avant parution trouvait les comparaisons entre la créativité et l'acte sexuel offensantes pour l'image des femmes. et d'autre part parce que Barnes lui-même craignait que le lecteur ne perçoive pas les aspirations nobles et sérieuses de Flaubert derrière ces formules qu'on aurait pu juger désinvoltes. Il publia toutefois une version resserrée du chapitre 6 années plus tard dans une anthologie de textes d'écrivains dirigée par Alberto Mangel. Il la publia sous le titre « Dirty Story, the Making of Madame Bovary ». Alors peut-être Barnes a-t-il supprimé ce chapitre du perroquet de Flaubert parce que justement il ressemblait trop à la troisième chronologie dans son simple assemblage de citations, réduisant ainsi la fonction de l'écrivain, du narrateur, à celle de copiste ou perroquet. Cet animal dont le narrateur du perroquet de Flaubert dit qu'il, je cite, « représente une vocalisation habile sans un cerveau très puissant ». Ou bien, le narrateur, pour se moquer des universitaires français, le décrit comme « le verbe à l'état pur, un symbole du logos ». Alors, quand il évoqua ce type d'histoire trouvée dans sa lettre à son éditeur, Barnes décrivit la méthode en ces termes. Les informations semblent être balancées au lecteur. J'ai choisi cette méthode pour jeter les idées d'une façon apparemment brutale. Donc, dans ces histoires trouvées, il s'agissait bien de se débarrasser de tout intermédiaire, de toute médiation, pour donner l'illusion d'un contact direct et brut avec Flaubert. Par ce biais, le narrateur atteint peut-être l'idéal flaubertien d'objectivité, d'impersonnalité, de détachement qui lui permet d'occulter sa propre voix et ainsi de prétendre à l'invisibilité narratoriale. Plusieurs autres chapitres de l'ouvrage s'apparentent à des histoires trouvées ou des sentons, comme l'épreuve écrite, où certains sujets d'examen sont formulés sous forme de plusieurs citations. C'est par exemple le cas pour ce sujet où le lecteur doit, à partir de 8 citations proposées, je cite, « montrer comment l'attitude de Flaubert à l'égard de la critique a évolué ». C'est aussi le cas du bestiaire, où vous voyez sur la page de droite toute une série de citations suivies de l'année dans lesquelles Flaubert se compare à divers animaux. La différence dans ce chapitre est toutefois que la présence du narrateur se fait sentir, puisqu'il ne se contente pas d'accumuler les citations, mais il les met en relation et se pose des questions. Par exemple, dans la section sur l'ours, où il se demande, sur la page de gauche, quelle espèce d'ours était exactement Gustave. Ou plus bas sur cette même page, alors que Flaubert annonce en 1845 être un ours blanc, le narrateur se demande là aussi pourquoi, et il avance diverses hypothèses. Dans ces pages, donc, le narrateur n'est plus un simple copiste ou répétiteur, mais un assembleur ou un bricoleur, pour reprendre le concept de Claude Lévi-Strauss, un bricoleur qui sélectionne et combine les matériaux préexistants afin d'en faire émerger du sens. Le perroquet de Flaubert met ainsi en œuvre divers moyens de rendre hommage à Flaubert. Le mode le plus extrême est celui que je viens d'analyser, c'est-à-dire celle des histoires trouvées. Dans ces chapitres, le narrateur reconnaît peut-être son inadéquation en tant que narrateur et écrivain, victime d'un psittacisme qui avait déjà été repéré chez Loulou dans Un cœur simple. Et dans le premier chapitre, le narrateur rappelle l'hypothèse des Sartriens pour qui, je cite, « l'incapacité de Loulou à faire plus que répéter les phrases qu'il entend est une confession directe de l'échec du romancier. Le perroquet écrivain accepte médiocrement le langage comme quelque chose de transmis, d'imitatif et d'inerte. » Et on sait que Sartre reproche à Flaubert sa croyance ou sa complicité dans la croyance qu'on ait parlé. On peut mesurer l'ampleur du procédé citationnel dans le perroquet de Flaubert en consultant la liste des citations originales en français que Barnes fournit à son traducteur, Jean Guilloineau, soit un total de 175 citations rassemblées sur 16 pages manuscrites dont vous voyez ici les deux premières. Dans l'ouvrage de Barnes, la voix du narrateur se fait par conséquent voleuse de mots pour féminiser l'expression de Michel Schneider, ou simplement fantôme hanté par la parole du maître, une parole soufflée, dirait Derrida, parce qu'elle est à la fois dérobée, toujours volée, mais aussi inspirée depuis une autre voix. Alors, si le narrateur hypermnésique du perroquet de Flaubert manie les différentes formes d'intertextualité sous la forme de citations, de références et d'allusions, dont je viens de donner quelques exemples, il exploite aussi des techniques métatextuelles, en proposant des résumés et des passages de critiques littéraires, mais aussi hypertextuelles, par le biais d'une parodie du dictionnaire des idées reçues. Et dans ce cas-là, il se fait plus interprète, critique et créateur que simple copieur. Dans ces cas-là, un pas est donc franchi vers l'appropriation du legs flaubertien par le truchement de l'interprétation critique de la transformation et de l'imitation. Comme le note Gérard Genette, l'hypertextualité a pour elle ce mérite spécifique de relancer constamment les œuvres anciennes dans un nouveau circuit de sens. La démarche intertextuelle et hypertextuelle n'est donc pas tautologique, mais bien créative, puisque l'écrivain prend appui sur un texte préexistant pour le faire bifurquer et composer une mélodie inédite. Alors on trouve un exemple de cette bifurcation créative dans le 12e chapitre, le dictionnaire des idées reçues de Braithwaite, qui consiste en une parodie et un pastiche stylistique du dictionnaire des idées reçues, ce texte inachevé de Flaubert, dont le narrateur cite d'ailleurs diverses entrées au fil de l'ouvrage. Braithwaite présente son propre dictionnaire comme, je cite, « un guide de poche attrape-nigaud, quelque chose de direct et cependant trompeur, la sagesse en pilule dont quelques-unes sont empoisonnées ». Formellement, le narrateur reproduit le procédé développé par Flaubert en proposant des entrées classées par ordre alphabétique et des gloses sur les noms et mots retenus. Il recourt à certains procédés stylistiques caractéristiques du texte de Flaubert. Il use, par exemple, de la parataxe et de la syndète, de phrases nominales et d'infinitifs à valeur d'impératif. Il élide parfois le sujet de la phrase et il adopte un ton ironique, espiègle et moqueur. On lit, par exemple, à l'entrée « lettres », je cite, « suivre Gide et dire que les lettres de Flaubert sont un chef-d'œuvre, suivre Sartre et dire qu'elles sont un exemple parfait d'association libre venant d'un divan pré-freudien, puis suivre son nez ». Ce chapitre, hanté par le fantôme de Flaubert, montre à quel point l'écrivain français marque le texte de son empreinte, alors même que le genre du dictionnaire suppose en général l'effacement de la trace de l'auteur, tout en revendiquant un rôle d'autorité. Alors, le propos des deux dictionnaires diffère toutefois. Dans son dictionnaire, Flaubert manie l'ironie pour proposer une satire du discours bourgeois par le biais d'un ensemble de poncifs, de définitions sèches, de croyances populaires, mais aussi de faux conseils sociaux et esthétiques. Braithwaite, pour sa part, donne lui aussi un échantillon d'idées reçues sur certains sujets, mais il offre surtout un aperçu insolite d'hommes et de femmes qui ont un rapport avec Flaubert. Les pseudo-citations qui apparaissent dans le dictionnaire de Flaubert sont des clichés et des lieux communs, alors que les citations du chapitre de Braithwaite sont authentiques et attribuées à Louis Bouilhet, Louise Collet, les Goncourt, Madame Flaubert et Flaubert lui-même. Par exemple, à l'entrée Madame Flaubert ici, une phrase dite par la mère de l'écrivain est reproduite entre guillemets « La rage des phrases t'a desséché le cœur ». Le résultat est plus modeste dans le cas de Braithwaite, dont le dictionnaire comporte 26 entrées, une pour chaque lettre de l'alphabet, alors que celui de Flaubert, qui est inachevé, comporte 701 articles dans l'édition d'Anne Herzberg-Pierrot de 1997. Enfin, le dictionnaire de Flaubert se compose en majorité de noms communs, alors que celui de Braithwaite privilégie les noms propres, et le chapitre s'apparente alors parfois à une suite de notices biographiques, quoique d'un genre très décalé. On note par exemple pour Jean-Paul Sartre, je cite, « a passé 7 ans à écrire l'idiot de la famille alors qu'il aurait pu écrire des tracts maoïstes. Un Louise Collet intellectuel, toujours en train d'importuner Gustave qui voulait seulement qu'on le laisse en paix. Conclure, il vaut mieux gâcher sa vieillesse que de n'en rien faire. » Qui est une citation de Courteline. Alors la prédominance des noms propres dans le dictionnaire de Braithwaite vient peut-être du fait que Barnes avait à l'origine l'intention de débuter son livre par une distribution des personnages, comme on en trouve au début des romans russes, avait-il écrit à son éditeur. Cette distribution, qui comporte les noms des amis et de la famille de Flaubert, et dont Barthes ne rédigea que 2 pages, celle que vous voyez ici, ressemble à la présentation des correspondants de Flaubert dans l'édition anglaise de la correspondance par Stigmala. Pour Barnes, le but de cette liste était de rendre le livre accessible à ceux qui n'avaient jamais lu une ligne de Flaubert. Bien que le procédé n'ait pas été retenu, certaines des entrées de cette liste furent déplacées vers le dictionnaire et remaniées. La démarche de Barnes dans son dictionnaire des idées reçues, mais aussi dans le perroquet de Flaubert en général, s'approche ainsi parfois du phénomène de stylisation décrit par Michael Bakhtin, une reproduction de procédés stylistiques génératrices de bivocalisme. Le pastiche et la parodie font en effet coexister le mot de Flaubert et celui de Braithwaite, de sorte qu'un échange dialogique s'instaure entre texte et intertexte, donnant lieu à ce que Philippe Lejeune a nommé une lecture palimpsestueuse. Un autre échange dialogique en forme d'hommage à Flaubert, mais qui est également une source d'émancipation, pour Barnes, se loge dans la situation fictionnelle. Et je vais m'attarder à présent sur ce point, qui sera le dernier point de mon exposé. Le choix du narrateur fictif, Jeffrey Braithwaite, médecin veuf dont la femme adultère se suicida, permit en effet à Barnes de lui inventer une vie qui fait écho à celle de Charles Bovary, même si le narrateur résiste à l'amalgame pendant la première moitié de l'ouvrage. Soucieux de conjurer la malédiction du psittacisme, Braithwaite écarte tout procédé hypertextuel frontal et opte pour des chemins de traverse, multipliant digressions, aposiopèses et autres évitements qui retardent l'identification au pionnier fictionnel. Braithwaite ne peut toutefois totalement échapper à l'héritage flaubertien et à l'autorité du modèle des Bovary sur son histoire personnelle, et les indices identificatoires apparaissent essentiellement dans la deuxième moitié de l'ouvrage. Tout d'abord sur un mode discret, puis de façon de plus en plus explicite. La vie maritale de Jeffrey et Ellen Braithwaite se présente alors comme une réplique, un reflet, un double spéculaire de celle du couple des Bovary. Emma Bovary et Ellen Braithwaite, deux femmes si proches que leurs initiales sont identiques, mènent une vie morne et ennuyeuse, trompent leur mari et se suicident. Le caractère impétueux d'Hélène, elle courait, se pressait, s'emballait, mettait les bouts, fait écho à la précipitation d'Emma, par exemple dans sa course folle vers la pharmacie à la fin du roman. Elle haletait à se rompre la poitrine, puis dans un transport d'héroïsme qui la rendait presque joyeuse, elle descendit la côte en courant, traversa la planche aux vaches, le sentier, l'allée, les halles, et arriva devant la boutique du pharmacien. Si la différence de style est ici flagrante, et l'imitation du style de Flaubert n'a pas été voulue par Barnes, hormis dans certains passages bien précis dont j'ai parlé précédemment, il n'en demeure pas moins que le destin fictif d'Hélène Braithwaite répète sur un mode psittacide celui d'Emma Bovary, comme s'il était vain d'espérer échapper au déterminisme d'un hypothèque aussi imposant. L'effet de miroir caractérise aussi Jeffrey et Charles, qui font tous deux preuve d'un tempérament stoïque et réservé. On se souvient de l'aveuglement de Charles, qui ignore tout de la mort de l'amour torturé et inassouvi d'Emma pour Léon. Je cite Madame Bovary, « Ce qui l'exaspérait, c'est que Charles n'avait pas l'air de se douter de son supplice. La conviction où il était de la rendre heureuse lui semblait une insulte imbécile. » À cet aveuglement, répond la réserve de Jeffrey qui choisit de trouver refuge dans le silence et l'absence de confrontation. Je cite, « Je ne l'ai jamais provoqué. Je restais prudent et sur la défensive, comme à mon habitude. Je ne lui posais même pas de questions. » La douleur de Jeffrey à la mort d'Hélène est exprimée en termes simples et bruts dans le perroquet de Flaubert. Par la suite vient la folie et la solitude, une souffrance, comme un travail régulier. Cette expression de la peine peut être comparée à celle de Charles après le suicide d'Emma et la découverte des lettres et billets de Léon et Rodolphe. Je cite, « Charles suffoquait comme un adolescent sous les vagues effluves amoureux qui gonflaient son cœur chagrin. » Là encore, le style volontairement factuel et épuré chez Barnes s'oppose à la prose imagée de Flaubert, même si plus loin, Braithwaite se risque à une comparaison digne de Flaubert lorsqu'il indique qu'on ne sort pas d'un deuil comme un train sort d'un tunnel, mais comme une mouette sort d'une nappe de pétrole mazoutée et plumée pour la vie. En tant que flaubertiste, Braithwaite ne peut ignorer qu'il a rejoué l'œuvre la plus célèbre de son auteur favori et que sa vie a déjà été écrite par Flaubert. mais le décalage stylistique est peut-être un moyen de mettre l'hypothèse à distance. En effet, le perroquet de Flaubert ne se contente pas de reproduire fidèlement le modèle de couple posé par Madame Bovary, et c'est l'écart par rapport à l'hypothèse qui permet le réenchantement de l'œuvre originale. En effet, l'ouvrage de Barnes s'intéresse davantage au mari trompé et veuf, qui s'exprime à la première personne plus de 5 ans après le décès de son épouse, qu'à la femme adultère, dont la voix et le point de vue ne sont d'ailleurs jamais proposés. La narration à la première personne, la perspective unique de Braithwaite sur sa vie personnelle, à laquelle s'oppose la multiplication des points de vue sur Flaubert, mais aussi ses adresses régulières au lecteur, ses interventions autoréflexives récurrentes, où il fait part de ses doutes et incertitudes et commente sa propre écriture au fur et à mesure de son élaboration, tous ces éléments font de Braithwaite un narrateur éminemment visible et anti-flaubertien, à la fois réticent et bavard. Figure postmoderniste qui rappelle également les narrateurs du XVIIIe siècle, à la Henry Fielding, Laurence Sterne ou Diderot. La transposition du cadre spatio-temporel du XIXe au XXe siècle, de Normandie en Angleterre, correspond à ce que Genette nomme une transposition diégétique ou transdiégétisation, ici proximisante car la diégèse est actualisée et rapprochée géographiquement du lectorat anglophone. Cette translation permet d'actualiser l'intrigue, les références culturelles et le lexique, comme ce sera le cas dans la bande dessinée Gemma Bovary de Posey Simmons, paru en 1999. Enfin, les passages consacrés à la vie d'Ellen Braithwaite sont souvent rédigés dans un style descriptif, impersonnel et épuré, à l'image de la pudeur d'un narrateur peu enclin à fouiller la vie intérieure de son épouse, là où Flaubert usait du discours indirect libre pour permettre à Emma de révéler ses sentiments, sans toutefois lui donner la parole directement. Pour conclure, les échos, mais aussi les divergences par rapport au modèle flaubertien que j'ai souligné dans cette présentation, révèlent à quel point Barnes, tout en vouant une admiration sans borne à Flaubert, entend faire œuvre créatrice et composer un texte inédit. Il dépasse l'angoisse de l'influence, celle qui saisit l'élève écrasé par le génie du maître, car il a su intérioriser l'œuvre de son père littéraire pour mieux affirmer sa singularité et son originalité, sans pour autant congédier le passé ou s'en affranchir totalement. Par ce biais, l'écrivain britannique se remémore et commémore les œuvres de Flaubert, tout en libérant un espace où faire résonner sa voix aux accents spécifiquement britanniques et contemporains. Il renouvela partiellement l'expérience 22 ans plus tard, en 2006, à l'occasion du 150e de la publication de Madame Bovary dans la Revue de Paris en 6 livraisons. La radio BBC 4 demanda en effet à 5 écrivains britanniques, dont Julian Barnes, de rédiger des monologues de 15 minutes permettant à plusieurs personnages du roman de Flaubert, condamnés au silence dans l'hypothèse, de s'exprimer à la première personne. Le programme radiophonique s'intitulait « Madame Bovary speaks »,« Madame Bovary parle ». Et Barnes proposa un texte intitulé « The Rebuke », que l'on peut traduire par « remontrance » ou « récrimination ». Au cours de ce monologue à la première personne, Emma rétablit la vérité sur son histoire en confiant qu'elle s'est offerte au notaire maître Guillaumin afin d'éponger ses dettes et n'a jamais songé à se suicider, mais a seulement commis l'imprudence de manger des champignons vénéneux. La petite femme de Flaubert n'a donc pas succombé à leur poison et habite désormais avec Charles à Canibarville, ville natale de Louis Bouilhet, où Barnes se rendit lui-même lors de son tout premier voyage en France à l'été 1959. Barnes trouva donc ainsi une nouvelle fois le moyen de rendre hommage à son maître en proposant un renouvellement de l'hypothèse flaubertien et en faisant entendre une voix singulière depuis l'outre-Manche du troisième millénaire. Dans The Rebuke, mais aussi dans Le perroquet de Flaubert, Barnes dévie donc délibérément de la voie tracée par Flaubert, en accord avec ce qu'il écrivait dans l'un de ses essais à propos de l'influence des ancêtres littéraires. Je cite « La vraie influence d'un grand écrivain est celle qui suggère, simplement et constamment, au fil des ans, va et suit ta propre voie. » Je vous remercie.
Mmh.
Merci beaucoup Vanessa Guignoli pour cette très belle communication qui nous a bien montré le mélange de révérence et d'originalité qui caractérise le rapport de Barthes à Flaubert. Alors j'ai été très frappée justement de constater à quel point finalement Barthes essayait d'engager un rapport à Flaubert qui ne soit pas celui de la statue finalement flaubertienne qui pétrifie Flaubert, mais qui fasse davantage finalement entendre la voix. Mm-hmm. Et peut-être c'est aussi la différence entre ce perroquet empaillé, oui, et la statue, mm-hmm, de Flaubert qui est présente au début. Alors, est-ce qu'il y a des questions peut-être pour commencer dans la salle ?
Oui. Merci beaucoup. On aurait peut-être trois questions, oui, articulées, que j'articulerai par une indiscrétion croissante. Donc, j'y réponds beaucoup. Donc, la première, vous rappelez la distinction entre écriture à programme et écriture, oui, à processus, et en situant très clairement Julian Barthes du côté de l'écriture à programme, mm-hmm, ces listes presque pathologiques de la liste.
Oui, oui, oui.
Il a vraisemblablement, enfin très certainement, conscience que Flaubert lui-même s'inscrit, oui, aussi, oui, dans, oui, ce type, mm-hmm, d'écriture à programme. Donc, et je me demandais si l'on savait, si vous saviez, par hasard, si il manifestait ou avait manifesté de l'intérêt pour tout le travail de transcription des manuscrits flaubertiens, des scénarios, indépendamment des carnets de travail,
oui, oui, oui,
mais notamment sur Internet, les brouillons, tous ces éléments qui sont désormais accessibles. Est-ce que par hasard, voilà, on
alors,
sait si...
Oui, il s'y intéresse, mais c'est pas quelqu'un qui manie beaucoup l'ordinateur. Donc, je ne pense pas qu'il soit allé regarder exactement ce qui a été transcrit, mais il se tient toujours au courant des nouveaux programmes qui mettent à disposition les œuvres, les brouillons, les transcriptions de Flaubert. Donc, il en est au courant, mais je disais, il lit le bulletin Flaubert très consciencieusement, dans tous les détails, etc. Donc, il est au courant. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'il aille voir vraiment très précisément les transcriptions.
Sa manière de procéder par liste, est-ce qu'elle résulte aussi de son imprégnation flaubertienne, finalement, ou flaubertiste
je ne suis pas sûre. Je pense que là, c'était vraiment lié au perroquet de Flaubert. Pour d'autres ouvrages, ça dépend en fait du type d'ouvrage. Par exemple, l'ouvrage dont j'ai parlé, Rien à craindre, qui est une méditation non fictionnelle sur la mort et la religion. Là, comme il faisait référence à beaucoup de penseurs, d'écrivains, etc., il a fait des listes là aussi. Enfin, il a un énorme carton avec tout son plan. Mais en revanche, pour des ouvrages plus fictionnels, pour le coup plus romanesques, il n'y a pas de liste. Donc, son ouvrage qui a été traduit par Une fille qui danse, qui était The Sense of an Ending, il l'a écrit un peu au fil de la plume, à la main d'ailleurs, dans un grand carnet avec assez peu de ratures. Et il n'y a pas de plan du tout. D'accord. Donc il l'a écrit comme ça. Donc en fait, ça dépend vraiment de son projet fictionnel.
Ouais. Alors, donc, les deux questions suivantes sont plus anecdotiques. Ouais. Parmi les listes justement de romans, oui, envisagés au début des années 80, ouais, il y en a une où il y avait six projets.
Oui, oui, oui.
Et le dernier apparaissait comme, si j'ai bien vu, hein,
oui, oui, oui,
Warren Fee, Anna Karenina,
oui,
suivi de quatre sigles qui ressemblaient fortement à la livre sterling.
Oui, oui, oui.
Est-ce que et ça on a une idée de ce que c'est?
Non. Alors non, ça n'a pas donné lieu à une publication. Et je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a dit, je n'en ai aucun souvenir. Donc il ne sait pas du tout quelle idée il avait à cette époque-là.
Un projet lucratif, mais...
Oui, 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 non. Et il y en a beaucoup d'autres dans ses carnets de notes. Il met quelques petites idées comme ça, et puis ça ne va pas plus loin que la ligne, en fait.
Et la troisième, donc, c'est les questions. Vous évoquiez au début le désir qui vous avez éprouvé de pénétrer dans l'espace interdit de la coulisse, mm-hmm, d'engager un rapport un peu d'enquête, sur le modèle du détective. Oui, oui. Qui caractérise la génétique, mm-hmm, à certains égards. Et je me demandais si, par rapport à ces archives, ces manuscrits de Julian Barthes, il y avait dans votre rapport à un un élément déclencheur, du coup, quelque chose qui en particulier a excité votre curiosité et qui vous a fait basculer dans cette...
Oui. Alors, disons que ce n'est pas forcément un élément dans les archives, mais donc j'ai commencé il y a, je sais pas, 20 ans, un peu plus que de ça, à travailler sur Julian Barnes, et j'ai écrit des livres de critique littéraire, en fait. Mais donc j'avais consulté ces manuscrits en 2006, j'avais pris beaucoup de notes, mais en fait, je ne savais pas comment les utiliser, je n'en faisais pas grand-chose. Et puis après, j'ai travaillé sur d'autres sujets, et pendant peut-être 8 ans, 10 ans, j'ai laissé un peu Barnes de côté. Enfin, je lisais évidemment ce qu'il publiait, mais je n'étais plus, je faisais plus de travail de critique littéraire. Et puis à un moment, j'ai voulu me replonger dans Julian Barnes, mais en adoptant un point de vue un petit peu différent. Je n'avais pas envie de retomber dans la critique littéraire. Et donc, je me suis replongée dans mes notes prises sur les manuscrits, et je me suis dit, bah, voilà l'angle un petit peu différent que je peux adopter pour m'intéresser à son œuvre. Et en fait, maintenant, c'est un angle qui m'intéresse peut-être plus que la critique littéraire, parce qu'actuellement, je travaille sur les manuscrits de Kazuo Ishiguro, et... Enfin, c'est vraiment pour le coup la passion détective qui me plaît énormément. Alors la chance que j'ai eue avec Julian Barnes, c'est que je le connais bien depuis pas mal d'années et que en fait pendant que j'étais aux archives, je lui envoyais des emails en lui posant des questions sur ses archives. Donc il m'a donné des informations complémentaires, mais la plupart du temps, il n'avait aucun souvenir de ce dont je lui parlais. Donc c'était assez amusant.
Est-ce que le signe de la livre sterling revient souvent dans ces archives?
Non, c'est la seule fois. C'est la seule fois où elle apparaît. Oui. Ben, il y avait peut-être un petit rapport quand même. Je me suis demandé si là, il y avait un petit rapport avec Anna Karenine, Emma Bovary. Voilà. Mais lui me dit non, à cette époque-là, je n'avais pas du tout l'intention de travailler sur Flaubert. Donc, merci.
Oui, Anne, je vous remercie de cette belle intervention. Tu m'as fait très clair, très convaincant. Et je me demandais, là, c'est juste une question anecdotique. Sur le livre que vous allez publier, quel est son titre, où il va paraître, et est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui. Alors, ça s'appelle Julian Barnes From the Margins, donc depuis les marges. Bon, il est publié en anglais chez un éditeur britannique qui s'appelle Bloomsbury. Il va sortir en mars 2020. Et donc, c'est un ouvrage... qui a été un petit peu inspiré par Le perroquet de Flaubert, parce qu'il est écrit... C'est un ouvrage très personnel, en fait, pas extrêmement universitaire. Donc, il y a des chapitres qui analysent la genèse de 8 de ses romans. Parce qu'en fait, j'avais écrit un livre beaucoup plus long, et puis l'éditeur m'a dit que c'était trop long, donc j'ai retiré certains chapitres. Donc, je me suis concentrée sur 8 romans, plutôt du début et de la fin, pour en fait montrer un petit peu l'évolution entre ce début de carrière et la fin de carrière. Et j'ai un chapitre qui s'appelle Chronologie, qui n'est pas une chronologie conventionnelle, mais qui est une chronologie un petit peu décalée, qui s'appuie sur des anecdotes, et puis ça mélange la critique littéraire et le biographique. Je le situe beaucoup dans son contexte d'écriture, parce que, au moment où il est émergé à la fin des années 70, c'était un moment extrêmement créatif dans la littérature britannique contemporaine, où il y avait toute une génération d'écrivains, Martin Amis, Ian McEwan, Salman Rushdie, qui émergeaient. Et donc, j'ai essayé de resituer ça dans un contexte. Donc, il y a une chronologie. Il y a un dictionnaire, qui est là aussi un dictionnaire un peu à la manière du perroquet de Flaubert, un petit peu décalé. Et puis il y a un chapitre, j'en ai pas beaucoup parlé, mais dans Le perroquet de Flaubert, il y a un chapitre sur les œuvres et les vies apocryphes. Et donc j'ai aussi un chapitre sur les œuvres apocryphes, c'est-à-dire que toutes les idées qu'il a eues et qu'il n'a pas développées, et il a écrit un livre qu'il n'a jamais publié, c'est le seul, qui est un guide littéraire d'Oxford. Donc c'est un guide sur les écrivains, les penseurs, les artistes qui ont habité à Oxford. Et donc, il a travaillé pendant 4 ans sur cet ouvrage qu'il a terminé, mais finalement, il n'a jamais été publié. Donc ça, c'est mes chapitres un petit peu décalés. Et puis, à côté de ça, j'ai des chapitres qui sont des analyses, évidemment, très, très, très ciblées. Je ne peux pas faire une analyse de la genèse de chaque roman, mais je me suis concentrée sur certains aspects particuliers de romans. Et donc, il y a un chapitre sur Le perroquet de Flaubert, bien entendu. Il faudrait qu'il y ait un intérêt pour ça, parce que ce n'est pas si facile, en fait. Disons que l'éditeur anglais, quand il m'a demandé quel est le public, pour lui, ce n'était pas forcément un livre que des étudiants allaient acheter, par exemple, parce qu'il faut déjà bien connaître l'œuvre de Barnes pour pouvoir y trouver un intérêt. Donc, je ne sais pas si un éditeur français serait intéressé. Si un éditeur français était intéressé, je le traduirai avec plaisir, mais je ne sais pas s'il y aura le lectorat pour.
Alors, moi, j'aurais aussi quelques questions. Alors, je voudrais revenir sur la question de la formation flaubertienne de oui. Barnes, parce que quand on lit Le perroquet de Flaubert et bon, les autres articles aussi qu'il a écrits, on est frappé par sa connaissance extrêmement érudite en fait, de l'œuvre flaubertienne, aussi bien de l'intégralité de l'œuvre que de la littérature critique autour, oui. Le fait qu'il ait lu quand même assez intimement aussi L'idiot de la famille, qui est quand même un livre énorme. Voilà, combien de temps a-t-il passé finalement à se documenter sur Flaubert et autour de Flaubert? Parce que vous avez dit qu'il y a passé 2 ans finalement entre 1981 et 1983, mais est-ce que c'est et qu'il avait commencé à lire Flaubert à 15 ans, mais on a l'impression que ça demande beaucoup plus d'années de proximité finalement avec.
Alors, Julian Barnes est un grand lecteur, donc et surtout il a toujours été passionné par la littérature française du 19e. Donc, en fait, depuis ses années d'université, il a beaucoup lu, il a accumulé. Et pendant les 2 années de préparation du perroquet de Flaubert, il a en effet fait des recherches, mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il a lu le plus de choses, en fait. Donc, c'est le résultat d'années de consultation, de lecture d'ouvrages de Flaubert. Je ne suis pas sûre qu'il ait lu L'idiot de la famille en entier, cela dit.
Il aurait lu des extraits seulement.
Oui. Ouais. Mais c'est vrai que bien qu'il ne se définisse pas, enfin, je trouve ses textes, ses essais magnifiques sur Flaubert, bien qu'il ne soit pas universitaire, il y a un article qui se rapproche le plus d'un article universitaire, c'est un article qu'il a consacré à la figure de Justin dans Madame Bovary, et qui est vraiment un article magnifique et qui est le dernier qui apparaît dans Quelque chose à déclarer.
Ah oui, c'est effectivement un très très bel article, mais on voit aussi qu'il a, enfin, par exemple, je crois que c'est dans l'article Les masques mortuaires de Flaubert, qui connaît très très bien, enfin, aussi bien la biographie de Lotman que le travail de Vargas Llosa, où il parle quand même assez amplement de Sartre dans cet article-là, et c'est vrai que c'est frappant de voir la connaissance très intime qu'il a de tout ce corpus, et même chez Flaubert lui-même, c'est-à-dire que bon, il écrit quand même dans les années 80, donc avant la digitalisation aussi de toute l'œuvre, il arrive à trouver des occurrences de perroquets qui sont assez cachées dans l'œuvre de Flaubert. Voilà, je me souviens que j'avais été frappée en le lisant de voir qu'il y avait un perroquet dans Salambo tatoué sur le corps des traducteurs dans Salambo, voilà, ce qui est un détail qui ne frappe pas du tout. Donc on a vraiment l'impression qu'il a lu, relu, médité l'ensemble de l'œuvre plusieurs fois, et jusqu'à même l'œuvre de jeunesse. Donc est-ce qu'il avait fait par exemple un mémoire sur Flaubert pendant ses études?
Non. D'accord. Non. Il l'a étudié pour écrire un essai en particulier sur Madame Bovary, mais en fait, il travaillait sur la littérature française et russe. Et en fait, la dimension russe est aussi très importante dans son œuvre.
D'accord.
Mais il a une manière de travailler. En fait, quand il lit tous ses ouvrages, il prend des notes. Donc, il y a vraiment des pages de notes avec, alors pas forcément très longues, mais le numéro de la page et la petite notation. Et par exemple, pour Le perroquet de Flaubert, il a une autre liste où il avait indiqué à inclure. Et donc, il a une grande page et puis il décide ce qu'il garde et ce qu'il ne garde pas. Et en fait, ça, il l'a fait aussi pour ses ouvrages donc, de non-fiction, qui vraiment regorgent d'informations, d'anecdotes. Là aussi, c'est le fruit de lectures très multiples.
Ouais. D'accord.
Oui, vous avez fait une allusion tout à l'heure à ce chapitre où le narrateur se moque.
Oui.
Oui. Et la couleur changeante des yeux d'Emma Bovary, selon que tel ou tel en parle.
Oui, oui.
Et si vous souvenez bien, dans le livre, il s'en prend avec une virulence extraordinaire à quelqu'un qui s'appelle Nietzsche.
Absolument, oui, oui.
Et ça ressemble vraiment à un argument trop personnel. Est-ce que vous avez des éclaircissements là-dessus?
Oui, alors en fait, il a assisté à une conférence d'Enid Starkey à Oxford. Qui Alors, je ne sais plus si la conférence portait... Si, la conférence portait sur les erreurs en littérature. Et donc, parmi les erreurs, l'une des erreurs portait sur les yeux d'Emma Bovary. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'il connaît personnellement, mais il a assisté à la conférence. Et c'est le fait d'assister à cette conférence qui l'a incité à écrire ce texte. Et en fait, ce texte est l'un des seuls, avec le premier chapitre, qui a été publié dans une revue littéraire indépendamment.
Est-ce qu'on sait si cette professeure américaine a réagi à...
Apparemment, non. Non, il m'a dit qu'il n'avait pas eu de contact avec elle. Donc,
Oui, parce qu'en plus, il montre qu'elle s'était trompée en publiant...
C'est ça. Avec la photo, la photo était celle de Louis Bouillet et non pas de celle de Flaubert.
Moi, j'aurais encore d'autres questions. Alors, on sent bien donc la proximité de ce livre, Le perroquet de Flaubert, avec bien sûr Un cœur simple de Flaubert, mais aussi Le dictionnaire des idées reçues et Madame Bovary. Est-ce que finalement ces trois œuvres forment le cœur battant du flaubertisme de Barnes, ou est-ce que, à votre connaissance, il y a aussi un intérêt de Barnes pour d'autres aspects de l'œuvre de Flaubert, le Flaubert oriental par exemple, est-ce qu'il en parle dans, dans d'autres textes?
Alors, le Flaubert oriental, c'est un Flaubert qu'il aime moins.
Oui. Hein,
il l'a écrit. Non, pour lui, l'œuvre majeure de Flaubert, c'est sa correspondance.
C'est ça.
Donc en fait, lorsqu'on lui demande, par exemple, sur une île déserte, qu'est-ce que vous emmenez comme œuvre, il emmène la correspondance de Flaubert. Et pour lui, c'est l'œuvre majeure de Flaubert.
D'accord.
Plus que Madame Bovary. Ah oui,
ouais.
Plus que la fiction.
D'accord.
Ouais, je suis assez d'accord avec lui que si j'étais sur une île déserte, j'emporterais la correspondance de Flaubert. Ah oui, oui. En plus, il y a le volume, donc... Oui.
Et
ben sa réponse c'était en fait la correspondance de Flaubert, et il aurait voulu emporter aussi un livre de cuisine de Jane Grigson, et on lui a dit il a dit est-ce que je peux enlever la Bible et à la place prendre le livre de cuisine. On lui a dit que c'était interdit.
J'ai été aussi très frappée en relisant pour cette communication le livre de Barnes par l'omniprésence de la thématique de la mort dans le roman. C'est-à-dire que bon, c'est vrai qu'il y a tout cet aspect léger, ironique, qu'on retrouve en permanence avec beaucoup d'humour sous la plume de Barnes, mais c'est un livre aussi où le fil conducteur, c'est quand même, il me semble-t-il, la question de la mort, donc aussi bien la mort de la femme de Geoffrey Braithwaite que la mort aussi de ses frères d'armes, puisque c'est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, et il est question dès le début du roman des camarades qu'il a perdus à ce moment-là. Et je me suis demandé si cette thématique finalement pouvait constituer aussi un des liens en fait de Barnes à Flaubert, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voit aussi notamment dans la deuxième chronologie, la chronologie des échecs et aussi des deuils. Il semble que Barnes soit très intéressé finalement chez Flaubert par la dimension mélancolique cette dimension du deuil, du chagrin qui est omniprésente aussi dans la vie de Flaubert depuis son plus jeune âge jusqu'à la fin.
Alors je crois que La prédominance de la mélancolie dans l'œuvre et la vie de Flaubert a une résonance particulière pour Barnes, parce que dans justement ce livre dont j'ai parlé plus tôt, Rien à craindre, qui est une méditation sur la mort, il explique qu'en fait que lui, depuis l'adolescence, il vit avec cette peur de la mort, et que c'est une peur maladive chez Barnes. Et donc dès son premier roman, Metroland, qui est donc un Bildungsroman qui suit un jeune homme de l'adolescence jusqu'à ses 30 ans, en fait, il y a un chapitre qui s'appelle « The Big D », donc « D » pour « Death », et où cet adolescent, donc est un petit peu un portrait semi-autobiographique de Barnes, fait référence à ses angoisses nocturnes qui sont liées à la peur de la mort. Et donc ça, c'est quelque chose qui commence à l'adolescence et qui a poursuivi Julian Barnes toute sa vie et encore maintenant. Et c'est ça qui l'a conduit à écrire « Rien à craindre » pour aborder cette question de la peur de la mort. Et donc finalement, la mort est présente en filigrane dans toute son œuvre. Donc c'est pas très étonnant qu'elle soit aussi présente dans Le perroquet de Flaubert.
D'accord. Oui, non, mais c'est parce que c'est vrai que c'est. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une thématique extrêmement impressionnante en fait. Mais alors, ce que vous avez l'air de dire, c'est que c'est plutôt une obsession de sa propre mort,
oui,
en
oui,
fond.
Oui.
Parce que là, c'est plutôt la thématique oui, oui. du deuil qu'on retrouve beaucoup, justement, sous la plume de Flaubert, dans sa correspondance, qui, pour le coup, lui, semble pas être un auteur obsédé par sa propre
oui,
mort,
oui.
mais plutôt hanté
oui,
par
oui,
les morts des autres.
C'est vrai. Donc, il est obsédé par sa propre mort, au point que, dans le livre « Rien à craindre », il évoque... sa peur de la mort, il évoque le deuil aussi, mais il n'envisage jamais la mort de son épouse. Et la même année, l'année de publication de Rien à craindre, son épouse est décédée, alors qu'il était toujours persuadé qu'il allait partir avant elle. Et là, Hermione Lee, qui lit tous ses livres, dit « c'est quand même étrange que dans Rien à craindre, tu as parlé de ta peur de la mort des amis, de la mort dans la littérature, mais tu n'as jamais envisagé la mort de la personne qui est la plus proche de toi. » Et finalement, il consacrera un livre non fictionnel à la question du deuil, où il aborde de façon très autobiographique la question du deuil. Donc en anglais, c'est « Levels of Life », et je me souviens plus, ça a été traduit complètement différemment en français. Et donc la troisième partie de cet ouvrage est consacrée, il dit « il parle à la première personne, est consacré à son expérience du deuil.
D'accord.
Et d'ailleurs, le jour de l'enterrement de son épouse, il a lu un passage du perroquet de Flaubert dans le chapitre qui s'appelle « Une histoire vraie, Pure Story », où le narrateur explique comment, face à un tel deuil, on n'est pas du tout préparé. Et en fait, il a lu ce passage et il a dit « Quand j'ai écrit ce passage, je ne pouvais pas imaginer que 40 ans plus tard, il allait être si adapté à la situation actuelle.
Ouais. D'autres questions dans la salle ?
En attendant l'histoire de deuil, je ne pouvais pas que ça arrive jusque-là, mais c'est une question très anecdotique. Vous avez parlé de génétique, du texte, de ce livre. Mais un autre fait que quand vous avez montré le crâne, le voyage, c'est, entre guillemets, ça témoigne du commencement, de l'expérience anecdotique. Est-ce que, c'est ma question, c'était, est-ce qu'après la composition du livre, il y a quelque chose qui revient toujours, c'est-à-dire que dans le crâne, les mots étaient datés après aussi. C'est-à-dire que il est revenu dans ce crâne. Je ne sais pas si c'est la nature du crâne, donc si vous avez quelque chose à développer.
Non, en fait, c'est un carnet vraiment de voyage, donc en fait, où il prenait des notations sur tous ses voyages. Et donc, en dehors de ces... En fait, il y en avait trois voyages en Normandie, en 81, 82, 83. Mais il y a aussi d'autres voyages. Donc, ce carnet va jusqu'en 2000-2001, je crois. Donc, en fait, les autres... En fait, ce carnet est composé de ces notations de voyage, mais aussi de ce qu'on peut appeler un journal intime. Et donc, c'est le carnet qu'il a gardé chez lui, parce qu'il y a une dimension très intime et personnelle. Et donc, moi, quand j'ai pu le voir, et il m'a autorisé à le photographier, il avait condamné certaines parties du carnet. Donc, en fait, il avait mis un élastique auprès de certaines parties du carnet pour que je ne regarde pas celle-là. Et donc, les seules parties que j'ai regardées, ce sont celles sur les trois séjours 81, 82 et 83. Donc, le reste du carnet sont des indications très personnelles, en fait. Et pour l'instant, il a décidé. Il a énormément de carnets intimes, mais il a dit que il savait pas ce qu'il allait en faire, mais que pour l'instant, il ne les confiait pas à la bibliothèque d'Orstein et que peut-être qu'il les détruirait. Voilà. Il n'a pas encore décidé ce qu'il allait en faire.
La question n'était pas tellement le contenu de la carrière, mais plutôt ce qui revient, c'est-à-dire que par, quand j'ai évoqué la carrière, est-ce que vraiment c'est seulement le commencement de quelque chose ou quelque chose qui revient là-bas, que, comme on disait, pas seulement les méthodes de commencement, il y a quelque chose qui se répète, comme par exemple la réutilisation de méthodes, par exemple la réapplication de méthodes que
déjà. Alors pas vraiment, parce que ce carnet de voyage, c'est un carnet de notation, de description assez factuelle de ce qu'il voit. Donc, en effet, en 82, quand il y retourne, il décrit de nouveau le musée Flaubert, le musée de l'histoire de la médecine, et il a des indications beaucoup plus détaillées, parce qu'en fait, on se rend compte que certains détails du musée Flaubert vont revenir presque verbatim dans le perroquet de Flaubert. Mais ce sont plutôt des notations factuelles. Là, même quand il revient en 1982, il ne pense pas à l'écrire. Enfin, les notations dans le carnet de voyage ne sont pas liées à la manière dont il va écrire le perroquet de Flaubert. Donc, ce n'est pas du tout un carnet sur des procédés d'écriture, en fait. Voilà. C'est plus un carnet d'informations, de documentation. Ouais.
Merci.
Et durant ce voyage, donc, il a des contacts avec des chercheurs sur Flaubert ou simplement avec le président des amis de Flaubert et Maupassant.
C'est ça. Ouais.
Ça.
Et puis bon, vous avez vu dans le livre, c'est une rencontre assez rigolote.
Ouais.
C'est plus tard qu'il a. Ben, il a rencontré beaucoup plus tard, après la publication du perroquet de Flaubert, Pierre-Marc de Biasi, Yvan Leclerc. Mais à cette époque-là, non, il n'a pas rencontré de chercheurs.
D'accord.
Et en fait, je pense que c'est lié à sa démarche, qui n'est pas une démarche universitaire.
Oui.
Donc, il n'a pas voulu faire cette démarche de rencontrer des universitaires.
D'accord. D'autres questions ? Alors, moi, j'en aurais une petite dernière, peut-être, sur le thème des animaux. Il est étonnant de voir à quel point Julianne Barthes finalement va dérouler cette thématique animale chez Flaubert, notamment dans son chapitre consacré au bestiaire de Flaubert, ce qui est à ma connaissance une thématique assez peu travaillée dans les années 1980, pas forcément mise au jour dans l'œuvre de Flaubert. Est-ce que ça fait partie d'un intérêt particulier à Julianne Barthes qu'on retrouve dans l'ensemble de son œuvre, cette question de l'animalité ou...
Non. Là, c'est vraiment pour le coup spécifique au perroquet de Flaubert.
D'accord.
Non, ça ne revient pas ailleurs dans son œuvre.
Oui, c'est très étonnant.
Oui, parce que c'est extrêmement précis.
Détaillé. Il dit qu'on ne s'est pas assez intéressé aux animaux domestiques de Flaubert.
Oui. Mais je pense que là, c'est une manière de construire un personnage, le personnage de son narrateur, qui est un petit peu obsédé au point d'aller chercher jusqu'à la toute petite référence. Donc, c'est aussi une manière de construire son personnage, de le faire rentrer autant dans les détails.
D'accord.
Les coïncidences.
Oui.
Est-ce que c'est son narrateur, Braithwaite, qui dit qu'il n'y a absolument pas les coïncidences?
Oui.
Mais il me semble que, quand même, Julian Barnes est assez intrigué par les coïncidences.
Je crois que. Oui, absolument. Julian Barnes justement a créé ce narrateur pour pouvoir s'en détacher et donc lui inventer certains traits de personnalité qui ne sont pas les siens.
C'est ce qui me frappe.
Oui, parce que dans l'œuvre de Barnes, il y a des coïncidences. Donc, il y a une distinction entre les deux évidente.
Bon, alors merci beaucoup
merci.
À vous pour cette belle communication.
Merci à tous.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui et donc on se retrouvera le 16 novembre pour écouter Damien Doge sur la musique.
Merci beaucoup.
Merci à vous aussi
pour votre
passion. J'aime beaucoup cette œuvre.
Ah oui.